Depuis toujours, l'univers connaissant l'eau de massacres et d'histoires sordides. Laissez-vous porter par une enquête à la fois. Venez découvrir des histoires inédites.
Bonjour et bienvenue sur le podcast d'une enquête à la fois. Donc, je suis en présence d'Éric Veillette. On ne voit pas Éric.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui, ça va bien, toi?
Ben oui, très bien, oui.
Juste pour faire une petite parenthèse, quand on enregistre le podcast, on se voit, mais on enregistre que nos voix. Alors, du coup, lui, il vous faisait salut, mais il n'y a que moi qui le vois, en fait. Alors, c'était très cocasse.
C'est ça. Mais je suis pas tannant, d'abord, fait que...
Non, c'est ça. Non, c'est juste très comique. Alors, pour reprendre où est-ce qu'on était la dernière fois qu'on a fait le podcast, on avait, je crois, terminé sur le podcast en disant qu'on risquait éventuellement de... discuter d'un cas de féminicide qui était plus connu pour le nom là, de la victime là, qui était Madame Denise Bouligny, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Alors, c'est aujourd'hui qu'on traite le sujet.
Oui, on va y aller plus en profondeur et c'est ça. Il y a quand même une petite particularité avec Denise Bouligny parce que c'est un crime... Il y a certaines similitudes avec le féminicide, là, mais dans ce cas-ci, c'est plutôt... On va le voir pourquoi.
OK. Ben écoute, on se lance maintenant, mon cher?
Oui, avec plaisir. Alors, je te laisse présenter le cas, faire l'introduction, dans le fond.
OK, ben aujourd'hui, dans l'épisode 2 d'une enquête à la fois, on va présenter l'affaire non résolue qui semble avoir été oubliée depuis longtemps. Si vous googlez, en fait, là, le nom de Denise Bouligny, ben, vous ne trouverez pas grand-chose, à part un article d'Éric qui a été écrit au sujet, là, sur le sujet, en fait, il y a très longtemps. En fait, il n'existe pas, à notre connaissance, de balado, d'articles ou même de reportages sur Internet là, qui concernent ce meurtre-là qui était quand même assez horrible. Et puis, pour en savoir plus, il faut vraiment se tourner vers les archives. Donc ça nous prouve que les documents papier ont encore leur importance aujourd'hui au niveau de l'information, puis c'est avec ça aussi qu'on va se baser là, pour cet épisode-là, parce que du coup, sans la documentation officielle, en fait, il n'y a vraiment rien pour faire du contenu parce que personne ou presque l'a traité. Alors, c'est un peu une exclusivité d'ailleurs de notre podcast qu'on va pas vous présenter aujourd'hui, puis c'est le cas peut-être que ça va motiver des gens à peut-être en discuter par la suite, c'est toi jamais, un petit effet boule de neige. Alors, on va faire ressortir cette histoire-là qui a été oubliée il y a très longtemps. Donc, on va pouvoir remettre Madame Bouligny sur la map. Donc, le 30 novembre 1970, Denise Bouligny est une serveuse et une danseuse à gogo. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne viennent pas du Québec, une danseuse à gogo... C'est un terme de l'époque pour dire que, dans le fond, c'est une stripteaseuse, une personne qui danse nue. Mais c'était un terme plus poli de l'époque. Mais ouais, c'est le concept. Alors, c'est une danseuse à gogo de 23 ans. Elle a été retrouvée morte en bordure du chemin du lac à Longueuil. En fait, elle travaillait comme... barmaid au club Adam et Ève de Longueuil. On l'avait abattu de plusieurs tirs de revolver. Les policiers en patrie ont surpris deux individus qui s'apprêtaient à enterrer le corps de la jeune femme. Les deux suspects ont cependant réussi à prendre la fuite à bord d'un véhicule. La chasse à l'homme qui a suivi a été ponctuée d'échanges de coups de feu. Selon le journal La Presse, Denise avait été assassinée de 4 projectiles à la tête, alors que d'autres sources parlent de 6 balles. Alors, ce sera à démystifier. Montréal Matin a mentionné un autre véhicule retrouvé sur les lieux et qui avait été reporté comme étant volé sur la rue Lagouchetière. Les policiers qui ont fait l'enquête dans cette affaire croient pouvoir relier celle-ci au meurtre de Harbour. Dans une salle de billard sur la rue Saint-Denis la semaine dernière, dans ce dans cette époque-là.
Ouais,
exact.
C'est ça.
Donc, on recherche toujours deux suspects qui se sont enfuis à travers les bois après avoir déchargé leurs armes en direction des limiers.
Oui, les limiers, c'est un nom qu'on donnait aux policiers, dans le fond, un peu comme un constable ou quelque chose comme ça. Ouais, ça n'est plus tellement utilisé aujourd'hui, puis c'est une bonne affaire, je pense. Mais là, ce que tu n'as pas dit à nos auditeurs, c'est que oui. Tu viens de lire, dans le fond, l'extrait du journal de Montréal Matin. Là.
Ah, ils l'ont vraiment écrit comme ça, avec lumière à l'intérieur?
Oui, mais quand c'est entre guillemets, là, dans le document, c'est de Montréal Matin. Puis regarde la petite note de bas de page, le petit 2 en bas, là, c'est marqué Montréal Matin du 2 décembre 70.
Ça se peut, ben là, je le vois pas.
T'es allé à l'école, moi aussi.
Ben là, okay. Et moi donc? Moi, je suis culturé, pas cultivé.
Non, mais c'est ce qu'on appelle une note de bas de page. Ça dit la source d'où ça vient.
Fait ouais, mais c'est d'habitude, c'est comme tous les articles, genre les micro.
Ouais,
c'est ça, c'est correct.
Mais c'est ça.
Pour mieux comprendre.
Ben, pour nos auditeurs qui nous écoutent présentement, ben, ça veut dire qu'on cite quand même des sources sérieuses.
Oui, quand même.
Quoique Montréal Matin, pour certaines personnes qui s'en souviennent peut-être, était peut-être pas un des journaux les plus fiables. Mais en tout cas, c'est.
Maintenant, mettons, si on le compare aux journaux d'aujourd'hui, il serait comparable à quoi de connu?
Il n'y a plus vraiment rien de comparable parce que tous ces journaux-là ont fini par fermer leurs portes, là. C'est pas un grand quotidien comme La Presse, par exemple, ou le Soleil, tout ça. On pourrait le comparer peut-être au Journal de Montréal. Tu sais, quelque chose de... Mais peut-être une coche encore en dessous. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait Allo Police, Photopolis, Montréal Matin. Il y avait aussi le Petit Journal. Montréal Matin s'est spécialisé à un moment donné dans les crimes aussi, là, mais c'est quand même pratique pour un chercheur comme moi aujourd'hui qui cherche, là, parce que des fois, sur certains crimes, il y a à peu près juste lui qui en parle.
J'ai bien aimé que tu dises un chercheur qui cherche, parce que du coup, on ne sait pas trop si un chercheur, ça cherche normalement. Là.
Ah, ça cherche pas.
Je voulais te taquiner un petit peu.
Bon, c'est alors... correct. Un lapsus.
Donc, pour en savoir davantage, Éric a commandé l'enquête du coroner, à petit informatif pour vous, les chers éditeurs. Oui. Il l'a reçu le 1er février 2023, alors c'est super récent. En fait, l'enquête en question, elle avait quand même environ 144 pages. C'est quand même tout un document.
Oui, parce alors,
merci pour ta lecture, Éric. Parce que moi, je ne l'ai pas lu au complet.
Ça fait plaisir.
Donc, Éric, quelles sont les nouvelles informations connues dans cette enquête? Parle-nous-en maintenant.
Dans le fond, juste pour le besoin de nos auditeurs, ce que tu viens de résumer, dans le fond, c'est ce qui apparaissait dans les journaux de l'époque. Donc, c'est ce que tout monsieur et madame tout le monde a pu apprendre. Donc, l'enquête du coroner, ça va quand même un peu plus loin. Elle a eu lieu le 3 décembre 1970. Donc, normalement, c'est normal, c'est d'habitude, les enquêtes se font le plus rapidement possible là, après la découverte d'un corps. Le premier témoin qui a été appelé, c'était le docteur Jean-Paul Valcourt, qui était un des principaux médecins pathologistes là, qui était rattaché à l'Institut médico-légal de Montréal. À cette époque-là, je pense qu'il est décédé aujourd'hui, là, mais ça, c'est une autre affaire. On va nous avoir des noms. Docteur Jean-Paul Valcourt, ça ne vous dit probablement rien, mais à force d'étudier des cas, vous allez voir que ça, c'est le genre de nom qui revient souvent. Comme par exemple, à une certaine époque, il y a le docteur Wilfrid de Rome, c'est lui qui avait fondé, si on veut, l'Institut médico-légal en 1914 à Montréal. Bon, je vais arrêter de m'éloigner de mon sujet.
Non, mais c'est correct d'en informer les gens parce que des fois, ça nous dit rien, mais de savoir que ça se pourrait que c'est non leur vienne à un moment donné, à force d'écouter nos podcasts, peut-être que ça va dire des quoi à d'autres personnes.
Oui, puis même le docteur de Rome, j'ai déterré une affaire il y a quelques années. Puis dans cette affaire-là, qui se déroule justement en 1914, il parle de projection de sang. Et puis aux États-Unis, ils se sont vantés, eux autres, de parler de projection de sang à partir à peu près des années 40. Puis là, on a un spécialiste québécois qui lui en parlait déjà ici, 30 ans auparavant. Tu sais, fait que tu dis, c'était pas un cabochon, là. c'était quelqu'un de... Ben, il avait étudié en France aussi, il avait rapporté plein de techniques ici, en tout cas. Puis c'était quelqu'un de très, très minutieux, il ne laissait rien passer. Alors, je vais retourner à mon docteur Valcourt. C'est donc lui qui a pratiqué l'autopsie sur la victime, donc sur Denise Voligny. Tout d'abord, ben, lui, ce qu'on a appris pendant qu'il témoignait devant le coroner, c'est que le cadavre a été identifié par son frère, donc un dénommé Marcel. Et il a confirmé, lui, parce qu'il y a eu confusion à un moment donné, tu l'as dit tantôt, là, qu'il y avait confusion sur le nombre de coups de feu. Et puis, lui, il dit qu'elle a été atteinte de 5 projectiles d'armes à feu, mais de calibre 22, dont 2 ont traversé la poitrine de droite à gauche. Des fois, ça peut donner une idée sur la façon qu'elle s'est fait tirer, parce qu'il y a une certaine théorie qu'elle aurait pu se faire tirer directement dans l'auto avant d'être sortie. Ces 2 balles-là ont été mortelles. Ça fait qu'elle a eu aucun
temps. Mais si elle avait été tirée dans l'auto, théoriquement, l'auto en question aurait eu du sang à l'intérieur. Est-ce qu'ils ont retrouvé la voiture?
Oui, c'est ce qu'on va voir tantôt. Il y avait certains effets personnels dans l'auto. Il y a une 3e balle qui est entrée à l'arrière de la nuque. Tu sais, souvent, ça, quand c'est rentré à l'arrière de la nuque, ben, ça fait souvent penser à une exécution, tu sais, un peu comme les Allemands faisaient, là, dans le temps, là, mettez-vous à genoux, puis... Mais je veux pas dire que c'est ça, là, tu sais, je fais juste parler des conclusions de...
Ben, en fait, pour avoir écouté quelques podcasts, c'est exactement ce que j'allais te demander, si c'est pas plus une exécution, parce que, de toute façon, ça, tu sais, mettons, quelqu'un qui veut se suicider peut pas vraiment se tirer lui-même en arrière de la tête, c'est pas possible, tu sais, c'est pas une position normale du corps. Tu sais, déjà, la distance du fusil en rapport avec, en plus, la longueur du bras et tout, c'est pas possible. Tu sais, tu pourrais te tirer en diagonale, mais droit, tu sais, de façon droite en arrière de la tête, il faut que quelqu'un le fasse pour toi, tu peux pas... C'est le faire par toi-même. Tu sais, par soi-même en avant, de se tirer de la tête ou par en dessous du menton, ça fonctionnerait, mais pas dans le dos. Tu sais. À moins d'être contorsionniste, il n'y a vraiment pas de façon de faire ça tout seul. Là.
En tout cas, c'est quand même possible, mais c'est tiré par les couettes puis c'est pas logique. Tu sais, il faudrait que tu prennes l'arme avec ton pouce, là, comme ça, mais aussitôt qu'on parle
de l'angle, tu seras pas genre à 90 degrés de toute façon, là. Tu vas sûrement tirer un peu plus vers le haut, fait qu'au final, puis de toute façon, si t'as plus de chances de te manquer, je veux pas inciter personne à se tirer des balles, là.
Non, juste
à titre informatif, mais tu sais, si quelqu'un a vraiment envie de mettre fin à sa vie, il va pas se compliquer la vie encore plus pour se tuer par en arrière, il va se tirer par en avant, tu sais. En tout cas, moi, c'est ma perception, là. Mais je crois que la logique, c'est que les gens vont penser à la solution la plus rapide, la plus simple. Ce ne sera pas d'essayer de se tirer par en arrière, là.
C'est ça. Puis c'est souvent une façon aussi de, pour le tueur, de ne pas voir sa victime en face aussi. De pas la,
à la,
de pas
avoir je pense la qu'on dit que ça la dépersonnalise, c'est ça, hein? Ça vient comme...
Oui, il y en a qui vont la dépersonnaliser. Le... Mais dépersonnaliser aussi, ça va aller avec souvent du overkill, qu'on appelle. C'est de la surpuissance, c'est qu'ils vont s'acharner. Par exemple, je sais pas, moi, il a donné 104 coups de bâton de baseball sur la tête de la victime. Là, complètement... Là, c'est plus une victime, c'est quasiment de la fricassée. Là, tu sais, il n'y a plus rien. Là. Fait que c'est surtout ça, tu sais. Mais oui, c'est quand même une certaine forme de dépersonnalisation, puis... Oui, il ne faut pas se le cacher. C'est pas
bien. Mais dans le fond, ça donne plus de guts à la personne ou de, en guillemets, courage là, pour le faire plutôt. C'est d'affronter le regard de l'autre pour mettre fin à sa vie. Les gens, des fois, sont lâches, si je peux le dire ainsi. Puis c'est plus facile de le faire de dos, comme de façon sournoise, plutôt que d'assumer le geste en face.
Puis ici, ça ressemble surtout, tu sais, si on voit ce que là, parce que c'est quand même une exécution. On va voir un petit peu le pourquoi du comment tantôt, mais ils ont peut-être demandé de la tirer, mais ça y tentait peut-être pas nécessairement, celui qui a pressé la détente, là, parce qu'il la connaissait. Fait que, tu sais, il l'a fait, mais en tirant dans la nuque, là, en tout cas. Et si j'enchaîne avec les autres résultats aussi, il y a eu un 4e projectile qui est entré sur le dessus de l'épaule droite, en direction vers le dos. Donc, elle a été tirée un peu dans tous les sens, si on peut dire. Puis le projectile a ricoché sur la colonne vertébrale en arrière. Et c'est là qu'on l'a récupéré, d'ailleurs. un cinquième tir entré dans la région du menton, côté gauche, en direction du cou postérieur. Là, je suis en train de lire les notes du docteur Valcourt, où il a été récupéré dans les chairs en arrière. Là, c'est sa façon de l'écrire, là. Fait que je ne veux pas trop commenter. Donc, il conclut comme ça. 4 projectiles récupérés, la victime atteinte de 5 projectiles, dont 2 mortellement, ceux de la poitrine. Donc, il revient aux 2 premiers du début. C'est ceux-là, pour lui, là, qui ont été mortels. Donc, celui de la nuque est peut-être venu après, mais il n'a peut-être pas été nécessairement mortel. Puis, le docteur Valcourt était aussi d'avis que la mort remontait à quelques heures seulement. Mais tu sais, quelques heures, il faut faire attention, c'est quelques heures quand lui a reçu le corps à l'Institut médico-légal ou sur place. Parce que certains médecins pathologistes se déplaçaient, mais c'est plus le cas, je pense, aujourd'hui. Là, peut-être dans des exceptions, là. C'est pas comme dans CSI. Là.
Effectivement, des fois, on romance un peu la réalité là, pour le bien des séries et films.
Ouais, ben tu sais, ça m'a déjà fait rire, parce que j'ai déjà vu une série, je sais pas laquelle, hein, tu sais. Le docteur pathologiste, il est en sarrau blanc, il fait ses examens, puis là, après ça, ils ont un call là, au poste de police, puis là, vite, vite, il enlève son sarrau blanc, il met son gun, puis il part sur le terrain, tu fais comme... pas tout à fait comme ça que ça marche, mais en tout cas... C'est du romancé, comme on dit. Bon, on parlait de constable tantôt. Justement, là, c'est un synonyme de policier, dans le fond. On a le policier.
En fait, André. C'était limier qui avait été utilisé plus.
Ouais, c'est ça. C'était un peu synonyme plus de constable. Puis même constable, c'est plus vraiment à mode aujourd'hui. Tu sais, ça faisait rire dans RBO à l'époque. Là, tu sais, constable bigra. Tu sais,
ça fait tellement longtemps de RBO en plus. Là.
Tu sais, quand tu dis constable, ça fait.
Nostalgie.
Ouais. Ça fait un peu moustache, les constables. mais en tout cas, bref, le policier, on va dire quand même, monsieur l'agent, l'agent André Lefebvre, lui, il est venu raconter comment, le 30 novembre, justement, vers 20h15, il circulait sur le chemin du lac. Parce que la particularité dans ça, dans le résumé des journaux, ils l'ont dit un peu, les tueurs, finalement, ils ont eu le temps de faire... de passer Denise Vouligny. Ils ont eu le temps de la tuer, mais ils ont été pris sur le fait. Donc, eux autres, ils l'ont vraiment pris sur le fait. C'était la... Ben là, c'est difficile à décrire aujourd'hui parce que je pense que cette région-là a été modifiée. Là. En tout cas, c'est plus tout à fait pareil. Mais ce serait dans le coin de la rue Nobel à Longueuil. Malheureusement, je ne connais pas le secteur. Là. Et à ce moment-là, eux autres, ils étaient à peu près à 250 pieds en arrière de la voiture des tueurs. Et puis, au fur et à mesure qu'ils avançaient, eux autres, ben, ils ont commencé à remarquer des détails assez louches. Il y a 2 individus qui ont sorti du côté ouest du chemin du lac. Et puis, à la suite de ces ils ont remarqué que, bon, particulièrement, il y avait un comportement assez étrange, dont un qui était habillé d'un coupe-vent. Puis là, il y en a un qui parle d'un coupe-vent blanc. Puis après ça, on parle plus d'un couleur claire ou beige. Mais bon, bref, on aura compris que souvent, dans les témoins comme ça, on va parler plus d'un coupe-vent couleur claire. Tu sais, ça, on va s'en sortir avec ça pour parler du même individu. Là, là c'est là qu'ils se sont mis à poursuivre l'auto suspect. Et là, il y a eu des virages, en tout cas, une certaine poursuite, on peut dire, d'un chemin de bois, là, puis tout ça. Ils ont atteint même une certaine vitesse, parce que là, vraiment, les deux tueurs voulaient les semer. c'était assez clair, là.
Ils ben, tu sais, quand on fait un meurtre, puis qu'en plus, on trouve le moyen de se faire pogner sur le fait, t'as pas tellement nécessairement envie de te faire, pogner, parce que, tu sais, le but de faire un meurtre, c'est ouais. Souvent, les gens essayent de ne pas se rendre en prison, tu sais.
Voilà.
Alors, comme tout bon criminel, ils ne voulaient pas se rendre là-bas, alors poursuite s'impose.
Exactement. Exactement. Puis, dans cette poursuite-là, ben, la voiture suspecte, elle s'est arrêtée à un moment donné dans une place où c'était encore en construction. Là. Donc, il y avait de la machinerie là, qui était là, des bulldozers et tout ça. Et puis... c'est là que bon, l'individu que on va dire au blouson ou bien au coupe-vent clair, il a débarqué, mais l'autre aussi. Le deuxième, lui, il semble s'être éclipsé, puis on n'a pas réussi à le décrire tellement. C'est pour ça que notre attention est retenue plus sur celui qui avait le coupe-vent de couleur claire. Et puis là, les policiers, il y en a un qui a crié à son collègue de venir le rejoindre, parce que là, la poursuite s'est continuée, mais à pied, dans cette zone de construction-là. Donc, imaginez un peu des buttes de terre, puis il y a des bulldozers qui attendent pendant la nuit que les ouvriers reviennent le lendemain. Là, tu sais, ça ressemble un peu à ça. Puis,
en fond, c'est littéralement un champ de construction. Là.
C'est ça, exactement. Puis c'était pas loin, on n'oublie pas ça non plus, c'était pas loin de certaines maisons. Là, le policier, il a dit, il a crié, « Ne bouge pas, sinon je te descends. » Puis l'individu, ben, qui se tenait en arrière d'une butte, là, d'une butte de terre, il a répondu, « Correct, correct, tire pas, je me rends, tu sais. » Fait que là, le policier, il attendait justement qu'il se rende. Mais l'homme au coupe-vent de couleur claire, ben, il n'a pas tenu parole, malheureusement. Donc, dans la seconde
qui a suivi... Exactement, c'est le plus wise des deux.
C'est ça. Donc, il a comme promis, il a promis au policier, « Non, non, tire pas, je me rends. » Puis finalement, il a sorti son gun suite après pour essayer de le surprendre. Puis il a ouvert le feu.
Je pensais qu'il était parti à courir. Moi, je trouvais que ça sonnait comme, tu sais, prendre la fuite. Là. Je viens de m'apprendre un revirement de situation que je... Ouais. Moi, je pense que je m'imaginais quelque chose à la Hollywood, là. Tu sais, il y a des bulldozers et tout. Je me dis, il doit être assez mongol, il va embarquer dans les bulldozers, il va faire une poursuite de malade. Mais non, je pense que j'écoute trop de films et de séries.
Ouais. Là, tu vas voir la réalité.
Quelque chose de malade.
À force de me côtoyer, tu vas voir plus la réalité, là, tu sais. Mais tu ris, mais dans le fond, c'est souvent ce qu'il y a des gens qui me disaient. Il y en a qui me trouvaient plate parce que moi, dans ma vie personnelle, je suis porté à écouter en premier lieu des affaires vraies que des affaires fictives. Oui, je vais me laisser aller des fois à des séries fictives ou des films fictifs puis tout ça, mais à force d'avoir vu beaucoup de documentaires plus terre à terre, des vraies choses, puis bon, à force aussi d'être plongé dans les archives surtout, là, tu sais, je suis plus habitué aux affaires vraies, fait que des fois tu fais comme ouais, ça c'est tiré par les cheveux. Mais quelqu'un qui, au contraire, est habitué de voir juste des séries, il va comparer ça avec ce qu'il connaît. Puis ce qu'il connaît, ben c'est ce qu'il a appris dans des séries fictives. Fait que tu sais, ça vient fausser les données, tu sais. Puis en tout cas, je veux pas critiquer personne, mais des fois, dans certaines balados, le pouvoir critique est plus ou moins là, tu sais.
Ça fait partie d'un certain type de création de contenu, tu sais. On a toute une façon différente d'approcher les sujets, là. Mm-hmm. Fait que je crois que ça dépend vraiment de la manière qu'on veut apporter les sujets et aussi, tu sais, le contenu qu'on veut traiter, là, tu sais. Je veux dire, je pense qu'il y a de tout pour tout le monde, là.
Ouais. Mais dans la prochaine balado qu'on va faire sur la fameuse femme, on l'a appelée la noyée, mais on l'a retrouvée en 53 dans la rivière des Prairies à Montréal. Mm-hmm. Là, ça me sert le fait d'être réel parce qu'il y a un détail important là-dedans qui, en tout cas, on le verra pourquoi, là. Mais que si on met pas les faits dans l'ordre chronologique, on l'aurait jamais su. On l'aurait jamais vu parce que bon, tu dis, bon, il y a tel détail d'une scène de crime, tu dis, bon, c'est normal, mais non, ça avait jamais été fait avant dans toute l'histoire du Québec. Fait que grâce à ça, tu fais comme, wow, t'es peu, là. Il y a quelque chose qui se passe, là.
On a une petite intrigue là, pour.
Ouais, je garde l'intrigue. Parce que dans le fond, c'est un peu. Écoute, je suis en train d'appeler ça moi-même un peu du profilage, mais de scène de crime. Parce qu'à force d'étudier scène de crime, tu sais, je te dis, je sais pas, moi, on étudie pendant 300 ans les scènes de crime. Puis là, tout d'un coup, à une certaine époque, pour la première fois, il se passe un détail qu'on n'a jamais vu avant. Là, tu te dis, wow, peut-être un peu, là, il y a quelque chose qui se passe là, là. Surtout dans une certaine catégorie de crimes qu'on veut nous imposer, là. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu une théorie là-dessus sur l'affaire de 1953. Puis juste avec ça, moi, pas que je la défais, je veux pas prétendre que je défais la théorie, mais ça tient plus la route, là, tant qu'à moi, là. Ça tient vraiment plus la route. Fait que c'est ça. Tu sais, des fois, ça permet d'orienter les enquêtes un peu... un peu mieux, je pense, là, ou d'écarter des théories, des pistes qui méritent d'être écartées. Parce que c'est souvent ça aussi. Il y en a qui vont travailler sur des pistes, puis moi-même, je l'ai connu dans des recherches. Tu es sur une piste, tu t'es investi beaucoup dans cette piste-là, tu fais tes recherches, tu trouves des trucs, Puis à un moment donné, tu as tellement mis d'efforts là-dedans, tu y crois à ta piste. Là. Mais à un moment donné, il faut avoir l'honnêteté que quand tu arrives au bout de ta piste, puis tu dis, ben, pour moi, c'est pas ça. Faut que tu aies le courage de l'abandonner. Puis même si tu as mis un paquet d'efforts, faut que tu l'écartes parce qu'il y a telle chose qui te dit à un moment donné, ben, gars, ça n'a plus d'allure. Mais c'est le contraire. Il y a beaucoup de monde qui font des enquêtes tunnels qu'on appelle. C'est qu'ils ont une idée, puis ils vont garder les éléments, juste les éléments qui viennent se coller à leur idée, alors qu'il y a d'autres détails qui repoussent, tu sais. Mais c'est pas comme ça que ça marche en enquête.
C'est un peu le concept d'avoir des œillères, dans le fond. Là, ouais. c'est... Comment je dirais ça? C'est très sélectif. Là. Dans le fond, on prend ce qu'on veut puis on laisse ce qu'on veut pas entendre. Là. Fait que ça vient comme un peu...
C'est ça.
Comment je dirais ça? Il y a un terme que malheureusement, je me rappelle pas, mais c'est pas juste dans ce type de circonstances-là, mais qui est à dire qu'au fond... Quand on veut absolument à tout prix trouver la réponse à une certaine chose, peu importe c'est quoi, ce qui arrive, c'est qu'on va soi-même, tu sais, tellement des fois se concentrer sur le sujet qu'on va vraiment, des fois même, trouver des affaires qui n'ont pas nécessairement un rapport, puis essayer d'y trouver comme un lien ou une cause à effet là, qui pourrait justifier, tandis que... T'sais, dans le fond, on va en prendre tout ce qui nous arrange, mais on va faire vraiment abstraction de tout ce qui viendrait, dans le fond, contrecarrer l'idéologie. C'est pas super pratique parce que, d'une certaine manière, ben c'est un peu se conformer, se réconforter. Je sais pas comment dire ça, là, mais
ouais.
C'est vraiment, on vient comme se faire un cocon avec notre idéologie ou notre idée. Ben, tu sais, on s'est vraiment comme super gros investi dedans, mais dans le fond, on vit quasiment dans un mensonge parce qu'on veut pas faire. On souhaite pas nécessairement, ouais, c'est ça, tu sais, au lieu d'être dans la réalité, on est comme pris dans une espèce de bulle temporelle ou d'idéologie de, ah, ben, c'est ça qui est arrivé, moi, c'est ça mon idée, puis je veux prouver à tout prix que X ou Y, mais tu sais, pour prouver un point, il faut prendre en considération un peu tout, là, un peu comme les scientifiques, là, tu sais, ils veulent tous s'intercontredire, là, mais en même temps, ben, c'est un peu le concept aussi de la science, tu sais. Mais ils peuvent pas juste dire, ah, c'est ça ma théorie, puis il n'y a rien qui existe à côté. Là, il y a tout le temps des choses nouvelles qui arrivent ou que malheureusement, ben, une théorie, elle tombe à l'eau parce que ben, ça fonctionne pas. En fait, il y a plein de choses qui viennent montrer que ben, malheureusement, ça marche pas de même. Fait que c'est un peu le même concept, mais t'sais, on n'est pas toutes scientifiques. Fait que des fois, ben, malheureusement, là, mais ce qu'il est, puis ben, on va dans une direction, puis on va pas ailleurs. Alors, voilà.
C'est pour ça je pense que c'est important de pas trop... C'est plus au niveau intellectuel que je parle, tu sais, de pas trop s'investir dans une enquête, parce que si tu vois ça plus comme une enquête, un peu comme une enquête historique, quelqu'un qui ferait une enquête sur Christophe Colomb, puis bon, tout ça, ça n'a pas un impact criminel, tu sais. Ici, il y en a toujours une, plus ou moins. Mais ça reste que pour moi, Denise Voulignier, c'est pas un cas que je veux résoudre. Oui, j'aimerais ça, mais je pense pas que ça arrive. Jamais. Tu sais, j'ai pas la prétention d'être un enquêteur ou quoi que ce soit. Je la vois plus comme un personnage historique. C'est important qu'on en parle parce qu'en plus, quand c'est non résolu, qu'elle ait été une danseuse à gogo ou une prostituée, ça, je m'en moque, mais royalement, pour moi, c'est une victime comme une autre, la même chose. Sauf que ce qui me parle dans ça, c'est qu'elle était plus à risque que d'autres personnes. Que, par exemple, une étudiante tranquille à la maison, qui va à l'école, qui revient le soir toujours à même heure. Cette personne-là a beaucoup moins de risques d'être victime d'un homicide à un moment donné.
Mais tu sais? Souvent, il y a des trucs en rapport avec les classes sociales, là, de ce qu'on remarque en général là, concernant les homicides, meurtres et compagnie. Là.
C'est ça. Tu sais, je veux dire, tu peux être victime d'un meurtre à l'intérieur d'une université. Mais on s'entend que c'est pas mal rare. Tu sais, tu as plus de chances, c'est arrivé beaucoup plus souvent que des filles ont été tuées après avoir fréquenté des bars puis toute la quête, parce que dans un bar, et malgré l'opinion que certaines personnes peuvent avoir, t'as plus de chances d'avoir de trous de cul là, au mètre carré, qu'ailleurs. Tu sais, des victimes, t'as toutes sortes de monde qui se ramassent là. Tu sais, va-t'en dans un opéra, tu fais comme, wow, t'es un peu, là, le monde s'habille avec des vestons, c'est pas juste un front. Tu sais, c'est une autre clientèle complètement. Tu sais, le monde va là pour la musique.
Les bars, on s'entend, tu sais, les gens aussi consomment de l'alcool. Je veux pas dire que les gens qui consomment de l'alcool sont tous des dévergondés, là, ça n'a vraiment pas rapport, mais c'est juste que des fois, il y a des gens qui ont que le comportement il va changer puis ils vont être comme plus insistants ou plus désagréables. Fait que il y a aussi l'altération du comportement à ces endroits-là. Fait que mettons quelqu'un qui est peut-être un peu plus colérique puis qui prend de l'alcool, ça va pas l'aider. Là. Fait que si le le gasket saute, ben c'est là que ça pète puis pas ailleurs. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas. Ça aide pas à ce qu'il y ait des situations critiques qui se passent dans ces endroits-là. C'est pas une généralité non plus. C'est pas tout le temps dramatique dans les bars. Là. Vous pouvez continuer d'y aller, tout le monde.
Oui, c'est ça, exactement. Mais, oui.
On va pas faire peur. Là. Aller encore au bar, ça va. Là.
C'est ça.
Mais non, c'est juste que...
C'est qu'au niveau de Denise Vouligny, elle faisait ça depuis quand même quelques années. Donc, elle connaissait le milieu. Après ça, on va se poser la question, mais est-ce qu'elle a été témoin de quelque chose? Est-ce qu'on a voulu s'en débarrasser justement? Parce que là, c'est pas quelqu'un qui avait un œil sur elle dans un bar et qui a voulu la violer ou quoi que ce soit. Non, c'est une exécution. Elle n'a pas été victime de viol ou quoi que ce soit. Il fallait qu'on s'en débarrasse. C'est ça que le type de crime nous dit dans cette affaire-là. En tout cas, la scène de crime. Fait que tu sais. Puis en plus, ce qu'on va apprendre à la fin, c'est qu'elle était censée. Elle commençait à être appelée pour témoigner dans une certaine cause qu'on sait pas, en plus. Fait qu'elle avait été approchée par la police ou par la couronne pour témoigner dans une cause. Donc, je pense qu'elle était devenue un témoin gênant. Là. On l'a vraiment éliminé. Ça, c'est un meurtre par contrat, là, tout simplement. Fait que, puis en plus, les gars qui se sauvaient de la police, c'était des durs, c'était des toughs, là. Pour tirer justement le policier il a dit à son collègue quand il est venu le rejoindre, il était à une quinzaine de pieds seulement quand il a tiré sur lui, fait qu'il était très chanceux de qu'il l'ait manqué là, t'sais. Fait que si je poursuis mon histoire justement, il y avait des maisons là, à côté du fameux chantier là, fait que les deux policiers se sont réfugiés là dans une maison parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas les policiers? Il n'y avait pas de cellulaire.
Des gilets pare-balles? Ah! Je me suis dit, s'ils vont se cacher dans une maison, ils doivent pas avoir de gilets pare-balles.
Ça aurait pu aussi. T'sais, un 2x4, ça peut être utile. Un mur, là, ça peut être plus protecteur qu'une chemise.
Là, je suis déçue de ta réponse. Il n'y a pas de cellulaire.
Non, parce que, regarde, non, parce que je voulais en venir ailleurs, moi, là, c'est pour ça. Le cellulaire, parce que eux autres, ils s'étaient éloignés de leur voiture, là, comprends-tu? Fait qu'ils pouvaient plus appeler les moyens de communication, ça là, c'est la radio patrouille, là. C'est la radio dans l'auto, comme un CB, si on veut, là. Pour ceux qui ont connu cette époque-là, là. J'en ai encore un,
mais pour les gens qui savent pas c'est quoi un CB, c'est genre un walkie-talkie.
C'est un radio que tu branches dans l'auto. Puis que tu as une antenne sur l'auto ou tu peux l'avoir aussi comme base, là. Moi, j'en ai fait il y a longtemps, mais. Mettons que les discos que tu entends là-dessus, c'était pas vargeux.
Ouais, tu peux entendre pas mal tout le monde. Mais l'image, c'est vraiment, ça ressemble un peu dans le même concept qu'un walkie-talkie. C'est juste que c'est vraiment pas un appareil indépendant. Là, c'est relié avec un fil sur une grosse boîte. Puis ça permet quand même de communiquer du même concept. Mais je pense que la distance est vraiment plus grande à cause de l'antenne, right?
Oui, un petit peu plus qu'un walkie-talkie dans certains cas. Mais ça reste que c'était pas la grande qualité non plus sonore. En tout cas, c'était pas comme du radio amateur, par exemple, là, des fois, qui sont capables d'aller un peu plus loin. Là. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'ils sont allés dans la première maison qui c'était de Madame Brochu. Alors, on salue Madame Brochu ce soir.
Bonjour, Madame Brochu. Si vous êtes encore là. Oui, on s'est dit la même chose.
Fait que chez Madame Brochu, elle les a laissés rentrer, mais eux autres, c'est parce qu'ils voulaient téléphoner pour appeler des renforts, évidemment. Là. Parce que là, t'es trop loin de. C'était peut-être trop risqué pour eux autres de retourner à l'autopatrouille.
Avec gilet pare-balles.
Avec gilet pare-balles, voilà.
C'est important de le mentionner.
Oui, certain. Fait que c'est ça, ils ont appelé les renforts, puis là, les renforts sont arrivés assez rapidement, parce que d'habitude, quand il y a question de fusillade, puis des policiers sont impliqués, ça niaise pas, comme on dit, t'sais. Alors, voilà, sur les lieux, je veux dire, les deux tueurs avaient disparu, là, tu sais, évidemment, eux autres, ils s'étaient poussés, comme on dit. Mais évidemment...
Il y avait une super tactique, là, de dire qu'ils se rendaient sans se rendre, là.
Ouais, déjà... en fait, un peu comme les cow-boys, là, tu sais. Il avait peut-être vu ça dans un film aussi, ça, c'est pas impossible.
Ouais, effectivement, ça se peut, mais on pourra peut-être pas leur demander, par contre.
Non. Fait que après ça, ben, tu sais, une scène de crime. Ben là, il n'avait pas découvert le corps encore. Tu sais, il faut le préciser. Fait que ce qui est arrivé, c'est que les policiers parlent entre eux autres. Puis là, ils essaient de reconstituer toute la patente. Mais là, c'est sûr qu'eux autres, la poursuite policière avait commencé quand ils avaient surpris, là, en train de faire quelque chose dans le bois. Fait qu'ils ont fini par remonter là. Et puis, c'est là qu'ils ont découvert le corps de Denise Voligny. Mais juste avant, je veux donner une précision, là, la voiture suspecte, c'était une Pontiac convertible, donc décapotable, de modèle 1965, bleu-gris, qu'on dit. Puis on a même le numéro de plaque, là, c'était 9D-7447, immatriculé au Québec, 70. Parce que toi, t'es pas au courant, ma petite chère amie. Mais, mais à l'époque, moi, je me souviens de ça, j'étais tout petit. Sur les plaques.
Moi, je n'étais même pas encore dans la pensée de mes parents. Là, fait.
Ouais, c'est ça. Les plaques d'auto dans ce temps-là, il fallait que. C'est pour ça que c'est marqué plaqué 70. Il fallait que tu aies la plaque de l'année. Fait qu'à chaque année, ça te prenait une autre plaque. Puis à un moment donné, ils ont implanté plus tard les vignettes. Tu avais juste l'autocollant à changer. Puis à un moment donné, ben, ils ont fini par comprendre. On va laisser la plaque à tout le monde. Puis on a juste à renouveler dans le système, mettons. T'sais. Fait que c'était la bonne vieille franquette à la mitaine, comme on dit. Là, il fallait que tu ailles ta plaque qui allait avec l'année. T'as quelque chose, hein?
Quand même. Mais pourtant, tu sais, des fois, il y a des magasins de souvenirs qui vendent des vieilles plaques du Québec. Je me rappelle même pas d'avoir vu ça, ou c'est peut-être moi qui ai mêlé.
Ouais, regarde comme faux. Des fois, il y a des vieilles plaques, c'est marqué l'année. Comme là, t'as le 70. Mais là, je sais pas, par exemple, je me rappelle pas en quelle année que ça l'a arrêté, cette méthode-là. Mais là, ça veut dire qu'en 70, ça l'était encore. Puis j'étais sur le bord d'arriver, moi. Fait que ça restait encore quelques années, d'après moi. Donc, c'est ça, les policiers, à force de se parler sur la scène, ben, ils sont revenus à leur point de départ de pourquoi il y avait eu cette poursuite-là. Et après avoir découvert la voiture, ben, ils ont fini par découvrir. Je parle comme un
chantier. On pardonne.
Ça n'a pas de bon sens. Ils ont fini par découvrir le corps d'une jeune femme. Quand ils l'ont trouvée, elle était étendue sur le dos et pleine de sang. Parce qu'on a vu tantôt, d'ailleurs, avec le docteur Valcourt, qu'elle avait été abattue de plusieurs projectiles.
J'ai une petite question pour toi. Donc, si oui. Je comprends bien, pour me faire une petite image dans ma tête, c'est qu'au final, les polices arrivent, mais ils n'ont pas encore vu le cadavre de la dame. Là. Ils ont juste remarqué que ça avait l'air bien louche, puis ils sont partis à la course. Et c'est après ça, après les avoir perdus, ils reviennent et se rendent compte qu'en fait, là, ils ont assisté à un homicide, un meurtre, ouais. Littéralement.
C'est ça, c'est en plein ça. Puis devant le coroner, ben justement, je vais lire un extrait de l'enquête du coroner quand il pose la question. Et le coroner lui demande « Et à part du cadavre de cette personne, pouvez-vous nous dire si vous avez constaté autre chose? » Alors, le fameux constable Lefebvre, il dit « Oui, j'ai constaté qu'il y avait une pelle qui était plantée debout. » Donc, ils ont laissé la pelle là. Ils se sont vraiment fait prendre les culottes à terre. « J'ai vu une pelle avec un manche de bois couleur rouge. » Ben important, la couleur. Et puis, il y avait un trou d'environ 24 pouces par 48 pouces de longueur et 24 pouces de largeur. Donc, on imagine, le trou n'était pas assez gros encore, donc il n'y avait pas fini. Et puis, je sais qu'il y avait une couple de pouces d'eau. Donc, il y avait de l'eau dans tout ça. Le coroner, il demande, dans le trou? Oui, il y avait de l'eau dans le trou. Quelle profondeur avait le trou? Je dirais alentour de 2 pieds, quelque chose du genre. Donc, ça revient à ce qu'on disait. Ont été poignés en flagrant délit. Puis bon.
Ça fait partie des genres de meurtres qui n'ont pas vraiment été préparés. Là. Mettons, si on parlait au niveau de l'organisation, là, c'est un genre de meurtre désorganisé ou ils ont juste été malchanceux puis c'est organisé selon toi?
Ils ont juste été malchanceux. Okay. Parce que c'était comme. C'était prévu qu'il allait la tuer là. Puis c'était prévu aussi qu'il l'enterrait. T'sais, il était déjà en action. Ils ont juste été. Ce qui est malheureux, c'est qu'ils l'ont tué avant que le trou soit prêt, si on veut, parce que les policiers auraient pu arriver peut-être à temps pour sauver Denise à ce moment-là. Mais ça n'a pas été le cas. Ce qui est plus révélateur avec l'enquête de coroner, c'est le témoignage qui suit. Moi, j'en ai appris beaucoup avec celui-là. Le témoignage, c'est celui de Fabienne Deschênes, 28 ans. Qui est-elle? Hein? On n'en a aucune espèce d'idée. T'as connais-tu?
Non, mais je présume que toi, tu vas nous le dire.
Ben oui, évidemment. Elle se présente comme étant la femme de Claude Duhamel. Retenez bien ce nom, Claude Duhamel. C'est lui qui va devenir à partir de maintenant le protagoniste de l'histoire. Alors,
ou plus communément appelé suspect.
Voilà, c'est ça, le personnage principal. puis bon, Fabienne, elle, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est une ménagère. Elle donne son adresse comme étant le 64 boulevard Richelieu. Au moment où elle témoigne, Claude Duhamel, il est introuvable. Parce que là, il faut dire que l'enquête du coroner, tu sais, quand tu lis une enquête de coroner, des fois, il faut que tu lises aussi entre les lignes. Et ce qu'on comprend, c'est que Claude Duhamel était déjà suspect, mais il était introuvable. Donc là, on fait témoigner sa femme ou sa conjointe et tout ça. Puis vous allez voir quel genre de réponse ça va donner. Là. C'est assez étrange.
Mais en fait, la dame là, en question, là, sa femme témoigne à sa place, mais est-ce que c'était plus dans le sens de... d'essayer de l'innocenter, tu sais, dans le fond, le genre d'interview là, qui demande est-ce que votre mari était chez vous lors du moment X ou c'est quoi exactement?
Ben, vu que c'est une enquête de coroner, le but de l'enquête de coroner à l'époque, un peu comme aujourd'hui aussi, là, c'est de déterminer les circonstances du décès. C'est tout. Mais dans le temps, il pouvait... déclarer quelqu'un criminellement responsable. Mais puis le coroner, à l'époque, avait un certain pouvoir pour lancer un mandat d'arrêt sur quelqu'un. Donc, il pouvait dire à la fin de son enquête, OK, moi, je pense que c'est lui qui a causé la mort de telle personne. Puis là, j'émets un mandat d'arrestation contre lui.
OK.
Des fois, c'était émis avant, je pense, parce qu'il y a des témoins qui se présentaient pas à l'enquête de coroner. Puis on savait que fallait les amener de force un peu, là. Fallait les inciter pas mal fort.
On dit pas qu'on allait leur tordre un bras, mais on n'était pas loin de ça.
C'est ça. Puis ce qui est curieux aussi, ben c'est curieux parce que c'est pas nécessairement rare, mais quand un témoin devant un coroner demande la protection de la cour, tu sais, normalement, si t'as rien à te reprocher, t'as pas besoin de demander ça. Tu témoignes, puis tu dis ce que t'as vu, puis ça finit là, tu sais. Mais Fabienne...
Sauf que t'avais pas dit qu'il y avait la mafia d'impliquer là-dedans, là. Ça pourrait pas être une des raisons.
Okay, attends, excusez, sans commentaire. Ça va venir plus tard, ça. Ben déjà, on soupçonne que si elle a été exécutée, puis qu'elle fréquentait les bars de danseuses, puis tout ça, c'est normalement, c'est pas les chevaliers de Colomb qui vont l'avoir assassiné. Là. C'est pas la garde paroissiale. Là.
Mais tu m'envoies déçu, c'était mes principales suspects.
Bon, ben tu peux rayer ça tout de suite. Ça t'en fait moins. Alors, ben c'est ça, Fabienne, elle demande la protection de la cour. Puis ce que ça fait, c'est que si toutefois elle dit des choses qu'elle devait pas dire, ben ça la protège. Pour un éventuel procès. Si, mettons, elle était poursuivie par après, mettons, pour meurtre, ben, ils n'ont pas le droit de se servir au procès de ce qu'elle a dit devant le coroner. Fait que ça a été fait en fonction, tu dis, ben, crime, c'est bien spécial. Elle pourrait dire que c'est elle qui l'a fait, elle pourrait dire n'importe quoi, puis ça pourrait pas servir après. Oui, ça peut paraître absurde, mais d'un autre côté, c'est important parce que si le témoin se sent plus libéré, parce que, tu sais, l'enquête de coroner, le but, c'est juste de savoir ce qui s'est passé. Jusqu'à la mort, à titre. Il n'y a pas à accuser quoi que ce soit. Qui que ce soit. Fait que le témoin devrait, en principe, se sentir plus libre pour raconter, pour comprendre les circonstances du crime. Si crime il y a ou le décès, tu sais. Mais dans ce cas-là, elle a demandé la protection de la cour, mais elle s'en est pas vraiment servie, tu sais, pour dire la vérité. parce que tu vas voir, elle va essayer de cacher un peu, de protéger son mari. Elle, ce qu'elle raconte, ben, c'est que justement, le 30 novembre, donc la journée du crime, de ce qu'elle se souvenait, donc selon son souvenir, elle était partie vers 22 heures le soir en auto. OK. Donc, dans un premier temps, ce qu'elle se souvient, Fabienne, c'est qu'elle a quitté le 30 novembre à 22 heures. On va savoir où est elle après. Mais que son auto, l'auto était à son nom, là, la fameuse convertible qu'on a trouvé, la Pontiac, il était à son nom. Fait que c'est pour ça qu'ils ont remonté jusqu'à elle. T'sais? Puis, elle, ce qu'elle prétend, c'est que l'auto n'a pas bougé jusqu'à 17 heures. Donc, ça va surtout se passer entre 17 et 22 heures. Et là, le coroner, il demande « Savez-vous à quelle heure l'automobile serait partie de chez vous? » Parce que c'est important, c'est l'auto qu'on a trouvé sur la scène de crime. Là. Tu sais? Puis elle a dit qu'elle ne le sait pas dans un premier temps. Est-ce que vous vous êtes aperçu à un certain moment que l'automobile n'y était plus? Elle a dit « Non, elle dit, j'ai pas remarqué, je ne sors pas dehors, moi, elle dit, quand j'ai pas affaire. » Fait qu'elle dit « J'ai pas vu pantoute, j'ai rien vu. » Et est-ce que vous étiez seule toute la journée du 30 novembre jusqu'à 17 heures? Là, elle a dit qu'elle était, elle, avec ses enfants, deux enfants, un de 6 ans et l'autre de 15 mois. Puis là, il demande le coroner, les clés de l'automobile, est-ce que vous les aviez sur vous-même? Elle a dit non. Où était-elle avec l'automobile? Donc, c'est comme ça, elle laissait les clés dans l'auto tout le temps.
Puis, ça, je pense que c'était commun dans le temps, non, de laisser les clés dans le char. Les gens se faisaient pas trop...
Ça dépend. C'est, je sais pas. Moi, j'ai pas été élevé dans un contexte comme ça, mais ça se peut. Moi, chez nous, on barrait les portes, là. Puis les clés étaient dans la maison. Mais tout ça pour dire qu'elle essaye d'expliquer au coroner que c'est comme... oui, c'est son auto, mais finalement, on apprend qu'elle sait même pas conduire. Si, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment bizarre. Puis là, sur les heures, ça devient un peu flou.
Là, les Donc, techniquement, c'est comme si elle avait endossé quelqu'un, fait qu'elle donne son nom pour la voiture, mais au fond, c'est vraiment pas elle qui l'utilise.
C'est ça. Tu sais, il faut dire qu'à une certaine époque, les criminels avaient tendance à mettre certaines choses au nom de leur femme. Parce que s'il y avait une saisie, il y avait quoi que ce soit, ben, ils peuvent pas saisir le chalet ni la maison. C'est pas à mon nom. Tu sais, je veux pas dire que c'est ça dans ce cas-là, mais ça regarde drôle un peu, là, tu sais. Puis, en tout cas, tout ça pour dire, je vais résumer assez, un peu plus, elle cherche vraiment à le couvrir, puis il serait venu chercher un skidou à un moment donné pour le réparer dans la journée, en tout cas, tu sais, ça, s'il y a quelque chose, là, qui se tient pas dans ça, là. Puis le soir, c'est ça, le soir, une autre affaire qu'elle cherche à le couvrir, c'est que quand elle est partie, elle disait qu'elle était partie vers 22 heures, c'est qu'elle est partie soudainement avec les enfants pour se rendre chez sa belle-mère avec les enfants. Écoute, là, t'as vu l'âge des enfants qu'elle vient de dire, là?
Je pense qu'elle avait dit 15 mois puis 6 ans, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Imagine-toi, là, tu pars avec les enfants d'un coup, là, parce que ta belle-mère veut te voir, juste comme ça, là, à 22 heures le soir.
Ben, pourquoi pas?
Ben, qu'est-ce? Fait que finalement, tu sais, on comprend dans son... entre les lignes, mettons. Puis de toute façon, le coroner finit par la faire parler un petit peu plus. Que c'est son mari, finalement. Elle a dit à un moment donné qu'elle a reçu un téléphone, mais qu'elle ne sait pas qui est allé au bout de la ligne. Mais tu sais, on se doute bien que c'est son mari. Que c'est Claude Duhamel. Puis qui voulait la voir d'urgence chez sa mère à lui. Fait que c'est ça. Pourquoi il voulait la voir? Ben là, à ce moment-là, il faut en déduire que il voulait s'arranger un peu peut-être sur ce qu'il y avait, les choses s'entendre dans leur matrie finalement. Là, ensuite, ben, tu sais, c'est sûr que. Moi, j'aime toujours les bouts où on parle plus de la victime parce qu'on apprend à connaître la victime et on fait un meilleur contexte autour de ça. Quand le coroner lui demande si elle connaissait la victime, si elle connaissait Denise Vouligny, ben ça, elle dit oui. Bon, OK, au moins, elle finit par l'admettre. Puis que ça faisait 7 ans à peu près qu'elle la connaissait. Voilà, tu sais, fait que c'est sûr que Denise Vouligny était connue... Tu sais, un peu des gens qui l'ont éliminée, finalement, c'est comme si elle avait été éliminée par des amis. Bon, fait qu'après ça, on a fait témoigner, évidemment, il y avait un logeur qui habitait avec la mère de Duhamel. Ils ont tous dit pas mal la même chose. Mais puisqu'on ne trouvait pas Claude Duhamel, bien évidemment, l'enquête, le coroner, il a dû ajourner son enquête pour la reprendre plus tard. Et justement, l'enquête a repris le 4 décembre 1970 avec Robert Bourbeau, qui lui était sergent détective. Puis il a raconté lui comment, avec l'aide d'un employé de la construction, il avait retrouvé l'arme du crime dans le fond d'un trou d'une dizaine de pieds de profondeur. Donc, tu sais, sur le chantier de construction, là, je pense que c'est là qu'ils ont trouvé l'arme du crime. Bourbeau avait ramené l'arme, évidemment, à son bureau pour le faire inspecter par les experts de l'Institut médico-légal. Et c'est le spécialiste de l'époque, Yvon Thériault, qui était spécialiste en balistique, qui a établi, lui, que c'était un Colt de calibre 22 de marque Woodsman, et même avec le numéro de série, hein, c'est pas rien. On a des détails. Le numéro de série, c'était 23-79-89-S. Voilà. Si quelqu'un le lance en possession aujourd'hui, ben tant pis pour lui. il a confirmé aussi, le sergent détective, que les quatre projectiles qu'on lui avait remis, là, dans le fond, pour l'expertise, avaient été prélevés dans le corps. Donc, tu sais, tout ça vient se mettre en place, un peu comme dans un procès. Tu sais, le docteur témoigne de sa partie. Après ça, le sergent détective vient, tout se met en branle, si on veut, là, tu sais. Fait que c'est ça qui fait un tout, là, qui fait une histoire plus complète. Alors, on a entendu aussi, le coroner est quand même assez loin dans ses affaires. Il a entendu le biologiste Roland Gosselin, qui lui avait examiné le véhicule, la fameuse Pontiac parisienne. Et c'est pas jeune, ça. Puis à l'intérieur, lui, il avait retrouvé du sang de groupe ORH positif. Et curieusement, ben le type de sang que Denise Vouligny avait, c'était justement du ORH positif. Donc, on pouvait pas donner...
Que de coïncidence, hein?
Voilà! Puis, il y en avait pas mal partout du sang, principalement, je pense, sur la banquette arrière, là. Fait que c'est pour ça que je te disais tantôt que est-ce que les coups de feu ont commencé déjà dans l'auto, puis qu'il y a eu une bagarre après, on sait pas, parce que ce qu'on sait pas, c'est que les deux coups fatals tirés dans le côté, là, comme le docteur Valco l'avait dit, est-ce que ça a été les deux premiers tirs ou les deux derniers, on le sait pas. Fait que si ça a été, mettons, les deux derniers, elle est peut-être pas morte sur le coup.
Puis là, ben, fait qu'il aurait pu essayer de s'enfuir de la voiture, puis ça se serait terminé là, mettons.
C'est ça. Mais là, tu sais, ça, pour ces détails-là, on manque de... Faudrait avoir les photos de la scène de crime puis en savoir plus, dont le fameux dossier de police. Mais le dossier de police, c'est comme je le dis souvent, c'est pas la première fois, là, je l'ai déjà dit dans des documentaires, c'est bloqué pour 100 ans, là. Fait que faut être patient, mettons.
C'est arrivé en 1970, je pense qu'on avait dit au départ.
Ouais. Fait que, vois-tu, il faut que j'attende mes 99 ans puis ma petite marchette pour aller consulter les dossiers.
Si t'as pas en marchette, tu peux pas y aller. C'est non, hell no.
Ou si j'y vois sans marchette, je suis un phénomène, là.
Ben, ça se pourrait, là. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent. Je sais pas l'âge qu'ils ont, là, mais qu'ils peuvent tout faire avec leur marchette ou pas, là. Tu sais, je veux dire. Oui. Tout se peut. Avec un peu de volonté.
Alors, ce que l'enquête de coroner nous permet, là, j'en épargne un petit résumé là, à nos auditeurs, mais c'est comme un puzzle. Tu sais, on s'expliquait l'autre fois, là, un procès et un dossier judiciaire, c'est comme un puzzle. Quand tu remets les morceaux en place, même si t'en manques deux ou trois, t'as quand même l'image de ce que c'est. Là, tu sais, si c'est un éléphant que t'es en train de reconstituer sur ton puzzle, ben tu le sais.
T'es pas censé voir un chat.
Voilà. Une trompe, c'est pas comme des moustaches.
Oh non!
Non! Ça dépend où.
J'ai tout le temps dit à mon chat qu'il avait des belles trompes, mais finalement... Ça serait un peu bizarre.
Ouais, mettons. Comme un éléphant avec une moustache. C'est... En tout cas.
Ah, il survivrait pas longtemps, je pense. Là. Il pourrait pas boire grand-chose.
Fait que tout ça pour dire qu'évidemment, quand tu lis l'enquête de coroner, la personne visée, ben, c'était Claude Duhamel. C'est bien évident. Mais là, il fallait le trouver, ce Claude Duhamel-là. Il était... lui, il s'est éclipsé, là. Évidemment, il a senti la soupe chaude. Hein. Puis c'est ça. Fait que, malgré tout ça, le 22 décembre 70, ben, le coroner Lorrain Lapointe, je pense que je ne l'avais pas nommé, mais il a quand même mené plusieurs enquêtes à ces époques-là. Ben, il a dû conclure...
Il y aurait comme deux coroners impliqués?
Non.
Ah, j'avais entendu coroner...
Ah, ben, je me suis peut-être trompé tantôt, mais c'est le coroner Lorrain Lapointe, là, pour ce cas-là. ben, tantôt, je lui ai parlé du docteur Valco, c'est peut-être ça qui t'a...
Ça se peut, je suis peut-être mêlé.
Pas grave. Mané, ce soir, on va y connaître.
Juste à l'épisode 2, là, laisse-moi une chance.
Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, après une dizaine de saisons, on va s'en sortir. donc, lui, sa conclusion, c'est que finalement, là, je cite là, sa conclusion, donc j'ouvre les guillemets. La victime a été atteinte de projectiles d'armes à feu le 30 novembre 1970 et fut trouvée dans un champ à quelques 25 pieds du chemin du lac, aux limites est de Longueuil. Son corps reposait près d'un trou récemment creusé. Donc voilà, c'est sa conclusion. Il parle pas... Ce qui est curieux là-dedans, c'est que normalement, il cible une personne. T'sais, il aurait pu dire, bon, je soupçonne que Lorrain Lapointe, pas Lorrain Lapointe, Claude Duhamel est responsable, est criminellement responsable, mais ça fait un peu curieux. Bref. Ensuite, il va s'écouler un petit peu plus d'un an avant que l'affaire refasse surface dans les journaux. Mais ça en fait, ça, des faces. Normand, il y a un Normand Lupien. Normand Lupien, lui, c'est l'autre policier. Tantôt, on a parlé du constable à moustache à M. Lefebvre. Mais là, c'est Normand Lupien. Normand Lupien, lui, c'est lui qui revient. Puis je pense que c'est lui qui va servir de témoin même au procès qui va. Donc là, on a arrêté Claude Duhamel, effectivement. Et puis on l'a arrêté où? Sais-tu?
Aux danseuses! aux danseuses à gogo, là. En tout cas, ça, là.
Ben non, le monsieur de 28 ans, on l'a arrêté en décembre 1971. Vois-tu, j'étais âgé de un mois. C'est pas clair, c'est merveilleux. Puis on l'a arrêté à New York. Ça veut dire qu'il avait pris la poudre d'escampette assez loin. Mais...
Toi, tu dis de la poudre au lieu de la poudre?
La poudre. Ça fait plus original.
Hey, je suis désolée, mais faut que je fasse la parenthèse. Tout le monde, moi, des mots de même, ça me fait penser à ma grand-mère qui aujourd'hui n'y est plus. Mais je lui ai toujours demandé si elle savait qu'il n'y avait pas de F dans popcorn parce qu'elle appelait ça du popcorn. Je trouvais ça vraiment drôle. Fait que. Ben, j'adore pour moi, ma grand-maman, là. C'est...
pour moi, je pense que ta grand-mère, au fond, avait un lien de parenté avec le premier ministre parce que lui, c'est Dicile.
Dicile, ben oui.
C'est
Dicile, de la pourde, du popcorn, des hot dogs. Les hot dogs, c'est bien n'importe quoi.
bref. Aïe, aïe, aïe. Fait que, ouais, où j'en étais, là? Tu t'en train de me faire part de mes affaires.
De la pourde d'escampette.
La pourde d'escampette. Et non pas le crazy carpet.
Oui, là, ça, là. C'est autre chose. Pour les gens qui connaissent pas la crazy carpet, au Québec, on a beaucoup de neige l'hiver, puis la crazy carpet, c'est le nom d'une espèce de tapis de...
Un tapis fou?
Ouais, non, mais c'est une espèce de rectangle qui ressemble à un gros tapis mis en plastique. Puis sur la neige, ce que ça fait, c'est que c'est super glissant. Alors, je crois que la compagnie simplement s'appelait, ou le produit s'appelait Crazy Carpet.
Ouais, parce que
c'est le nom du produit, mais dans le fond, ça sert à glisser sur la neige.
D'autres, on appelait ça un casse-gueule. Simplement.
Ouais, il y avait souvent des accidents aussi. Ça se dirige super mal.
Ah, c'est l'enfer, c'est le bordel.
Ça part, mais il n'y a pas gros contrôle.
Non. Aïe, aïe, aïe. Fait que, voilà, tout ça nous a conduit à M. Duhamel.
Qui était à New York avec sa pourde d'escampette.
Sa pourde d'escampette. Puis lui, il a affirmé qu'il n'était pas coupable, mais que c'était plutôt son frère qui lui ressemblait beaucoup, évidemment, que c'est lui qui avait tiré sur Denise Voligny. Fait que là, ça commence ça a déjà commencé un peu les entourloupettes pour... Ça ressemble des fois un peu au crime organisé, là. Tu sais, il se trouve des défaites, pis ci, pis ça, pis bon, c'est pas...
Ouais, il pointe un peu tout le monde du doigt, là.
Ouais, c'est ça, exactement. Fait que l'enquête de coroner a pu reprendre en 1972. Hmm? Ça arrive. Mm-hmm. Des fois, surtout quand on ne trouve pas la personne tout de suite. Puis ça arrive aussi qu'il y a des enquêtes de coroner qui se terminent jamais, qu'on n'a pu jamais réouvrir parce qu'on n'a jamais trouvé de suspect. C'est ça, réouvert, merci. La pourde.
Réouvrir la pourde.
La pourde. Puis cette fois, c'est en présence des avocats. Là, ce qu'il y a de nouveau dans ça, je dis les avocats Edgar Allard pour la couronne, mais Claude F. Archambault, qui représentait Claude Duhamel. Toi, ça te dit probablement rien, Claude F. Archambault. Et il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que M. Archambault est encore vivant.
Bonjour à toi, M. Archambault, si tu écoutes notre podcast.
Ouais. Mais il faut quand même dire, si on a le droit de le dire publiquement, qu'il a été radié du barreau à deux reprises. OK?
Oh! Ouais. La question étant maintenant, pourquoi?
Pourquoi? Ben ça, tire les Internet, je ne veux pas embarquer là-dedans. Je tiens à ma vie.
J'irai fouiner.
Oui, mais pour ceux qui ont un certain âge, qui connaissent M. Archambault, il a fait les manchettes des fois assez souvent. Je t'enverrai une photo, peut-être que tu l'as déjà vu aux nouvelles, c'est bien possible. Mais il a pris, souvent il s'est occupé de choses controversées. Il a défendu, il fait partie d'une certaine époque de criminalistes aussi, là, à une certaine époque, là, il y en a qui vont sûrement se souvenir de Maître Frank Chauffy, de Raymond Daou aussi, Raymond Daou qui a été, c'est pas moi qui le dis, mais un documentaire qui a été fait il y a des années sur lui, qui le disait l'avocat de la mafia. Fait que, tu sais... Mais c'est ça, les criminalistes, c'est comme une nouvelle époque de criminalistes qui embarquait et tout ça. Alors, c'est M. Archambault qui a défendu M. Duhamel. Puis lui, quand l'enquête de coroner a été a recommencé pour la dernière fois, pour la finir, si on veut, ils ont appelé un seul témoin, et ce seul témoin-là, c'était Normand Lupien, le policier, le deuxième policier. Oui. Lui qui était assis, c'est comme Starsky et Hutch, on ne sait jamais lequel des deux conduit, là, mais en tout cas.
Toujours... Notre cher limier, M. Lupien.
Voilà. Puis là, je vais résumer le témoignage de M. Lupien, mais finalement, tout ça pour dire que Maître Archambault l'a questionné de façon serrée, tu sais, sur des détails. Êtes-vous sûr de ça? Êtes-vous sûr de ci? Ça, souvent, c'est des techniques pour essayer de remettre en doute puis essayer de piéger le témoin aussi, savoir si... Parce que des fois, le témoin peut être bien honnête, mais à force de le picosser, il peut se tromper. Puis là, tu dis, ah, vous vous êtes trompé, c'est pas vrai, puis c'est puis ça. Fait que là, il est pris en défaut. Bref, je suis sûr que tu es capable de t'imaginer une certaine partie. Là, dans le fond, c'est pour détruire la crédibilité des témoins. Mais dans ce cas-là, là, on était juste à une enquête de coroner. Là, il faut... Moi, j'aurais dit, mettons, à Maître Archambault, si j'avais été là, pouce, mais pouce égal. Attends de faire ça au procès, là. C'est... mais c'est ça. Fait que il y a quand même. Claude Duhamel a quand même été reconnu criminellement responsable par l'enquête du coroner. Et puis là, j'embarque sur ton paragraphe. Paragraphe en
long. On est déjà rendu à moi.
Ah oui! Oui, que... oui! Faut que je me repose, moi, Chris!
On se calme. Non, mais j'essaie de remonter en haut, puis il y a des parties que je me rappelle pas que tu as dit. Fait que là, j'étais là, ouais, il me semble qu'on a parlé.
Moi, j'ai résumé un peu parce que je trouvais que ça valait peut-être pas assez la peine d'aller dans le détail.
Toi qui vois, c'est juste que moi, j'étais pas en train de suivre, fait que je pensais pas que je t'ai rendu à moi-même. Là, t'sais.
Ouais, c'est correct.
Donc, pour reprendre la suite, donc en 1900. En juin 1972, pour pas dire plein de dates qui n'ont pas rapport comme au début, durant les audiences du procès de Claude Duhamel, en fait, il y a quelqu'un qui sort de nulle part, qui était en fait un chômeur de 30 ans, sans domicile fixe depuis au moins 2 mois, qui soudainement arrive et avoue avoir commis le meurtre. Donc là, lui, il sort comme ça. Alors, il s'agissait cependant d'un témoin de la défense qui avait demandé la protection de la cour. Donc, ça disait que le jeune chômeur a raconté au tribunal dans quelles circonstances il avait tué son ancienne amie, qui est-à-dire Mme Bouligny, Et il avait affirmé l'avoir rencontré au bord de, qui s'appelait Adam et Ève, le témoin qui n'a pas été identifié par les journaux à l'époque, mais aujourd'hui on sait qu'il s'appelle Monsieur Jean-Louis Morin, avait affirmé que Denise lui avait volé 600$ en plus de l'avoir humilié.
Ouais.
Donc si je comprends bien, ce serait comme la motivation de son meurtre, donc il déciderait de la tuer pour 600$ qui auraient été volées et une humiliation quelconque qu'il aurait subi de la part de Mme Vouligny.
Ouais, c'est ce qu'il dit. Mais si tu remets ça dans le contexte, OK? Tu sais, on parlait de hier tantôt, là, pour une enquête.
Oui, le regarder, bon, oui, c'est ça.
Fait que rassois-toi, repousse-toi dans ton fauteuil, enlève tes œillères, mets-toi à ton aise. Donc, c'est ça. Essaie de garder une vision plus large. Puis là, on a le procès de Claude Duhamel, au fond. Là, la parenté, on imagine que normalement, quand un procès s'ouvre, on est optimiste, on espère qu'il va être condamné puis que le crime va être résolu. Donc, normalement, ça commence un peu sur cette note-là, jusqu'à temps que M. Morin arrive, il est appelé par la défense. Puis là, tout d'un coup, il dit « Non, c'est pas Duhamel qui l'a tué, c'est Boué, pour les raisons que tu viens d'expliquer. »
Mais si je peux me permettre, là, je trouve juste que c'est suspicieux. Tu sais, pourquoi tu l'avoues maintenant plutôt qu'au départ, tant qu'à faire? Ça, je veux... Moi, je dirais que mon intuition, ça me donne juste peut-être l'impression qu'il a été forcé d'admettre un crime qu'il n'aurait pas commis, là, par la... Je sais pas, par le comment la circonstance se présente. Il est censé être un témoin.
Uh-huh.
Puis là, il devient un meurtrier. Puis là, une humiliation, une raison de 600$, tu sais, ça vaut la peine d'exécuter quelqu'un, je sais pas, mais en plus, ils sont deux, fait que pourquoi s'ils sont deux, il est le seul à avoir commis le meurtre? En tout cas, moi, vite de même, tu me dis ça, puis je trouve que ça sonne un peu quelqu'un qui est forcé d'avouer quelque chose, mais c'est pas vraiment lui, là.
M'a dit, comme on disait quand on était jeune, on jouait à je sais pas quel jeu, là, tu brûles.
C'est ça.
Parce que le pouvoir d'un procès, c'est, comment je te dirais ça, c'est plus fort qu'une enquête de coroner, évidemment, c'est plus poussé. Mais la force d'un procès, c'est que tu as les deux parties qui interrogent.
Donc, fait le concept, c'est surtout de démentir, là, de vraiment voilà, trouver la vérité.
Fait que tu sais, M. Morin, il apparaît, mais c'est la version de la défense. OK? Puis là, c'est ce qui arrive, c'est que quand que la défense appelle ses témoins, ben là, la couronne, elle a le droit aussi de contre-interroger les témoins. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'en contre-interrogeant M. Morin, ben oui, il l'a ébranlé parce qu'il a remis en doute un peu sa version. Mais quand un témoin accepte de témoigner, on a le droit de faire ressortir son passé. Et là, ce qui arrive, c'est que M. Morin, on apprend, c'est un spécialiste des hold-up, premièrement. Donc, c'est un criminel endurci. Ce qui veut dire criminel endurci, les hold-up dans ce temps-là, c'est les braqueurs de banque se tenaient souvent, même il y en a qui avaient une cote-part à donner à la mafia ou à la PEG. Fait que, tu sais, ça laisse présumer qu'il fréquentait un certain milieu.
Et donc, ça ferait un peu un coupable qui serait plausible.
Non, c'est pas ça.
Je dis ça dans le sens où est-ce que vu qu'il y a un passé, tu sais, même moi, si je trouve que ça fait pas de sens, si, exemple, il y avait un meurtre qu'il n'a pas commis, il y aurait... Mettons, s'il y avait le choix de prendre quelqu'un qui est super religieux, qui n'a jamais rien fait, juste des bonnes actions, mettons, dans son entourage, ça ferait bizarre qu'ils disent qu'il y avait un meurtre plutôt qu'un gars qui était pas avec les bonnes personnes, tu sais, qui avait un...
Ben, ce qui fait
un passé un peu tumultueux, mettons. Je sais pas si tu comprends la perception que j'ai, là, tu sais, entre quelqu'un qui est bien vu de sa... de son... De sa communauté versus quelqu'un qui a fait genre des hold-up, il y a plus le profil d'un criminel que l'autre.
Mais c'est pas à ça que voulait en venir la couronne. C'est sur la crédibilité du témoin, OK?
OK.
Puis la question suivante qu'il lui a demandé, ben au fond, c'était OK, si vous l'avez vraiment commis, le meurtre, pourquoi vous n'êtes pas allé voir les policiers? Parce que M. Morin, ce qu'il a fait dans les faits, c'est qu'au lieu d'aller voir les policiers, quand il a pris il a appris que Claude Duhamel avait son procès, il est allé voir Maître Claude F. Archambault. Fait que pourquoi, quand t'avoues un meurtre, tu vas voir l'avocat de la défense qui défend l'accusé? Comprends-tu? Là, je ne peux pas le dire parce que je me risque des poursuites, mais dans le fond, c'est comme si le scénario aurait été créé à quelque part dans le bureau de l'avocat. Comprends-tu?
Ouais, ça...
Autrement dit...
C'est que le concept, c'est qu'il n'y serait pas, il y aurait pas d'intérêt à aller parler directement à l'avocat, c'est ça?
Ben, c'est parce que dans le fond, ça semble... C'est ce que le procureur voulait laisser entendre. C'est que le scénario, que ce soit Morin, tout à coup, que ce soit le tueur, ça aurait pris forme dans le bureau de l'avocat de la défense, qui est maître à
Est-ce que c'est littéralement ce que le... Est-ce que le juge disait lui-même? Est-ce que c'était vraiment ça
non,
comme son propos?
Non, c'est sûr que ça, on ne peut pas le prouver. Mais la version de Morin a été suffisante, en tout cas, pour semer le doute, parce que malheureusement, certains vont se dire malheureusement, ben Claude Duhamel, il a été acquitté. Fait que ça a été... si c'est une stratégie de la défense, ben ça a fonctionné. Parce que là, Claude Duhamel, si c'était vraiment le gars au manteau... Paul,
ouais.
Ben ouais, manteau blanc ou peu importe, qui a tiré sur les policiers puis tout ça, puis qui est, bon, il a tué Denise Foligny. Ben là, si c'était.
Mais en quoi ça deviendrait comme une forme de tactique? Est-ce que c'est en semant le doute de qui est réellement le tueur que finalement ça finit par acquitter tout le monde ou c'est
quoi? Ben c'est parce que si tu sens que ton client, mettons que t'es avocate puis ton client, tu dois le défendre puis que là tu commence à t'apercevoir que tu t'en sortiras pas, il est dans la marde. Puis à un moment donné, tu as l'opportunité pour X raisons. Je veux pas dire que le témoin était payé, mais il y a des fortes
chances. On le sait pas de toute façon.
Ouais, c'est ça. Mais il y a sûrement eu quelque chose en échange. Puis là, tu trouves le témoin idéal qui, lui, est prêt à risquer d'aller en prison pour un petit bout. Mais quand tu vas témoigner dans un procès, tu n'es pas accusé. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que M. Morin a été accusé après l'acquittement de Duhamel. Lui, il a été accusé du meurtre de Denise Foligny. Parce que là, ils ont dit, ben regarde, il vient de l'avouer. Hein? On va te poursuivre, mon maudit. On va t'envoyer en dedans. Ou hein? On va t'envoyer la peine de mort encore valable dans ce temps-là. Ça achevait, là. Mais bon, bref, on pendait plus depuis déjà une dizaine d'années. Mais il risquait quand même beaucoup. Mais il a été acquitté à son tour, M. Morin. Fait que il s'en est sorti finalement. C'est ça.
c'est très intriguant. Tu sais, tu me racontes ça, hein? Je suis genre plein de points d'interrogation, genre how is ouais. possible.
Puis ce qu'on a, on a même appris sur M. Morin, c'est que depuis 1963, il avait accumulé apparemment la somme de 60 000 $ dans ses braquages de banque ou de toutes sortes. 60 000
piastres. C'est quoi? Aujourd'hui, ça doit valoir quoi? Genre 500 000 ou plus?
Il y a une façon de faire le calcul. Là, sur, vous pouvez aller sur le site de la Banque du Canada. Mais je vais te donner un exemple. Mon père, en 1972, justement la même année du procès de Duhamel, il a acheté sa maison, un bungalow. Tu sais comment il a payé?
Non.
17 000 $ Puis ça, il a pris 20 ans avant de le payer. Fait qu'imagine, là, lui...
17 000 $
Fait que lui, il a 60 000 $ c'est comme s'il pouvait se payer 3 bungalows cash. OK? Ben ça, ouais. Ça veut dire que c'est comme s'il pouvait te payer aujourd'hui 3 maisons. Fait que mettons, je sais pas comment les maisons sont en moyenne, 150 000, 200 000. Puis là, je parle de région et non pas de Montréal, parce que je suis sûr que là, les gens de Montréal rient de moi.
Ben donc, là, attends une minute, là, on est post-pandémie maintenant, là. Fait que c'est à la limite, là, ces montants-là, c'est quasiment plus des trucs délabrés. Je veux pas dire que c'est tout des trucs délabrés, là, mais...
Oh!
c'est plus ce que c'était.
ouais, mais tout ça pour dire qu'il y avait du cash pour vivre en masse. Et ben en 65, il s'est mérité une sentence au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, ils ont fini par l'attraper, puis il a fait de prison. Puis Saint-Vincent-de-Paul, là, c'était pas, c'était pas la prison la plus confortable en ville. Puis il a été libéré en décembre 69. Donc, quand le meurtre de Denise Foligny a eu lieu, c'était quand même plausible. Il était sorti de prison. Mais lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il a ensuite vécu des économies de ses hold-up. Puis c'est pour ça qu'il vivait en vagabond, parce qu'apparemment, qu'il allait s'en chercher de temps en temps, il avait une cachette à Bécancour. Fait que les gens de Bécancour checkaient, ouais, s'il n'en reste pas quelque part en dessous d'un arbre ou quelque chose comme ça. Mais c'est là, après ça, qu'il arrive en scène, puis peut-être qu'il lui restait plus d'argent. qui était dans la rue, puis en tout cas. Fait c'est pour ça que c'est bizarre là, qu'ils se rendent après ça au cabinet de Maître Archambault pour, plutôt que d'aller voir les policiers. Là, t'sais, si t'as un meurtre avoué, tu vas là, naturellement. T'sais.
Je comprends. Mais en tout cas, tout ça semble très douteux.
Très. Ouais, c'est ça. Ça se finit pas là, notre histoire. C'est, en fait, avec les questions de la couronne, ce qu'on a appris, c'est que Jean-Louis Morin connaissait aussi Paulette Gingras. C'est qui, ça, Paulette Gingras? Hein?
Mais je me posais la question. Parle-nous bonne... de Mme Paulette.
Paulette Gingras, c'est... m'a fait une histoire courte. Le 12 mars 1971, il y a trois hommes, OK? Jean-Claude Rioux, Jacques Verrier et André Vaillancourt. Ils ont été assassinés, les trois, à l'intérieur d'un bar qu'on appelait à l'époque le Casaloma. OK, à Montréal.
Ça sonne comme Casanova, mais...
Ouais, un peu. Quand même. Et l'histoire, le triple meurtre, ce qu'on a surnommé le triple meurtre du Casaloma, c'était une grosse affaire, là. Sérieusement, les plus vieux vont dire « Wow, vont savoir de quoi je parle. » Ils vont dire « Le Casaloma, OK, c'est... » Pour faire une histoire courte, il y a un des trois qui devait quelque chose. Il y avait une dette, en tout cas, tout ça. Puis, il y en avait au moins un des trois là, qui avait même pas d'affaire là-dedans, là, qui a été innocent dans ça, mais il y a eu la gorge...
Innocent ou innocenté? Okay,
non, innocent. puis, il y a eu trois accusés dans cette affaire-là. Les trois accusés, c'était Giulio Ciamaro, excusez mon italien, il n'est pas à point, Joseph Tozzi et Joe Di Mauro. OK?
Molo.
Joe Di Mauro. Joe Di Mauro.
Ouais, c'est ça.
OK? Parce qu'apprends-moi pas, lui, il est connu, puis il y en a qui vont t'en reprendre.
Non, mais c'est parce que ça sonnait avec un A, en plus, il n'y a pas de A, tu sais.
Joe Molo, Di Mauro, ou Di Mauro.
Ouais, cas. Molo ou Molo, mais ça, le premier sonnait comme Morlo, puis il n'y a pas de A.
Ou dis-le Molo, OK? Jeu de mots plate.
On va y aller Molo!
C'est ça. c'était trois gars-là, c'est trois Italiens, évidemment, qui... Trois membres soupçonnés du crime organisé, qui ont été reconnus coupables dans leur premier procès. Puis là, tout d'un coup, c'est que Paulette Gingras, c'était la témoin principale. Elle, c'était comme un peu comme Denise Voligny, là, Paulette Gingras, serveuse, elle travaillait là, peut-être qu'elle était danseuse aussi, tout ça. Bon, bref, elle connaissait le milieu, tu sais. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un deuxième procès. Les avocats de Di Mauro, entre autres, et tout ça, ben, ils ont réussi à avoir un deuxième procès. Puis là, tout d'un coup, qu'est-ce qui est arrivé? Paulette Gingras a changé son témoignage. Tout d'un coup, elle a dit une autre version complètement. Puis, ça aurait été prouvé apparemment plus tard qu'elle avait été payée pour changer son témoignage. Fait que là, ce qui est arrivé, ce qu'on disait tantôt là, pour le fameux scénario de M. Morin, c'est que là, il connaissait Paulette Gingras. Et il connaissait tout ce beau monde-là. Puis il y avait un de ses frères aussi là, qui était impliqué, Jean-Marc Morin, 32 ans, qui avait été accusé, lui, dans la triste affaire du Casaloma, lui aussi, mais il avait été finalement acquitté. Donc, un autre Morin d'acquitté, ça commence à faire louche un peu, là. Hein, tu trouves pas?
Que de coïncidence.
Que de coïncidence, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui a fait que Paulette Gingras a changé son témoignage, puis je dirais même, j'oserais dire, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi que Morin s'est présenté au procès de Duhamel pour lancer son histoire tout d'un coup. Fait que tu sais, c'est à la même époque, c'est les mêmes stratégies, ou presque, c'est louche. Ce qui est important, c'est qu'en octobre 72, comme on l'a dit tantôt, ben Jean-Louis Morin il a subi son procès lui-ci, évidemment, puis parce que il avait témoigné avec la protection de la cour, tu sais ce que je disais tantôt, là. Ben, la protection de la cour, ce qu'elle faisait, c'est que le témoignage, quand il a dit au procès de Duhamel, « Hey, c'est moi qui ai tué Denise », ben ça, c'était même plus acceptable, c'était plus admissible en preuve. Et comme c'était pratiquement la seule preuve que la police avait, Ben, il a été acquitté, lui aussi. Alors, c'était pas mal le dernier recours qu'on avait pour résoudre le crime de Denise Vouligny. Fait que là, c'était tout tombé à l'eau, finalement. Alors, on avait la chance, si je peux dire, d'avoir Claude Duhamel entre les mains. On l'a échappé comme un savon mouillé. Puis là, on avait un autre suspect, puis lui aussi, ça a été pareil. Alors, c'est triste. Je ne veux pas dire aujourd'hui que c'est un des deux qui l'a tué. Ça reste officiellement une affaire non résolue. Et ça se peut aussi, hein, ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre. Parce que le fameux deuxième suspect qui était dans l'auto au début, c'était qui? On l'a jamais su. C'était-tu Morin? Ou c'était-tu... T'sais, on le sait pas. On l'a jamais coincé. Fait que... Bref, voilà, notre pauvre Denise, elle n'a jamais obtenu justice.
Non, de ce que je pouvais voir aussi, là, ça disait que le 1er mars 1973, M. Morin a finalement été tué par balle. Ben, j'ai dit finalement comme si c'était ce qu'on voulait, là, mais...
Oh oui, oui, oui.
Non, mais M. Morin aurait été apparemment là, tiré d'une balle en plein dans la tête alors qu'il participait à un vol à main armée à Bedford, dans les cantons de l'Est, ça, c'est une région du Québec.
Ouais.
Il est décédé quelques heures plus tard là, à l'Hôtel Dieu de Montréal. Son complice, qui s'appelait Marcel Lawrence, a été grièvement blessé par 4 projectiles. Donc, je regardais ça, puis je me dis, est-ce que c'est vraiment juste comme le... Le principe du, tu sais, admettons, ils étaient, tu sais, ils ont fait le vol, puis comment je dirais ça, c'est pour se défendre pendant le vol qu'ils auraient reçu les balles, ou c'était, penses-tu que c'était quelque chose de, comme, je dirais pas un peu prémédité, puis quelqu'un en aurait profité pour, entre guillemets, l'assassiner pendant son vol, mais que ça passe mieux, je sais pas si tu comprends ma question.
Ouais, moi je comprends ta question, mais ce que je peux te dire, c'est qu'avec ta question, tu rouvres une piste, dans le sens que si au niveau des enquêtes, là, mettons, tu dis on prendrait une enquête sérieuse, c'est que là tu viens d'ouvrir une piste, alors il faudrait l'approfondir, puis pour l'approfondir, il faudrait sortir, mettons, l'enquête de coroner sur la mort de Morin en 73. Parce qu'il y a sûrement eu une enquête de coroner là-dessus. Là, on pourrait peut-être le savoir, les circonstances de qui a tiré en premier, qui a fait quoi, puis tu sais, les policiers. Mais ça se peut qu'il n'y ait pas grand-chose dans l'enquête de coroner. Je les ai déjà fait sortir pour le fameux Jean-Paul Mercier, que je t'expliquerai à un moment donné, c'est qui. Puis vu qu'il avait été tiré par les policiers, ben, l'enquête de coroner, il n'y a pratiquement rien dans ça. C'est tracé, c'est assez mince, là. Fait que, mais ça aussi, là, Jean-Paul Mercier, c'était un puissant clown. Là. C'était un tough, là. c'est ça, tu sais. Mais ce qui est bizarre, en plus, parce que notre histoire sur Denise n'est pas finie avec les questions. Il y a d'autres questions qui se rajoutent. Parce qu'en avril 1977, donc on est 7 ans après, ben dans les journaux, là, c'est la dernière fois que le nom de Denise apparaît. Et pourquoi? C'est dans le Montréal Matin encore du 2 avril 1977 parce qu'on avait retrouvé le corps d'une femme de 20 ans au même endroit et qu'on n'a pas identifié, qui n'a pas été identifié et tout ça. Donc, c'est sûr que je devrais demander l'enquête de coroner. Peut-être qu'elle a été identifiée par la suite ou tout ça. Je ne l'ai pas fait, mais ça pourrait être... Si on obtient quelque chose, ça pourrait être une suite pour nos auditeurs.
Mais c'est quand même une drôle de circonstance que tout bonnement, tu sais, mettons, ça peut être une coïncidence que quelqu'un meurt à ce même endroit-là. Mais là, en même temps, si c'est pas une coïncidence, ça voudrait dire qu'il y a un certain meurtrier qui serait probablement pas sous les verrous parce qu'il retourne à la même place tuer une autre personne. Fait que là, ça viendra encore créer plus de questions que de réponses. Là.
Mais dans ce contexte-là, je dirais, par exemple, admettons que la victime serait... du même métier que Denise Vouligny, mettons. Ben, peut-être que ce lieu-là était un lieu favori pour les pégreux ou les membres de la PEG pour se débarrasser d'un corps, par exemple. T'sais. Mais là, on peut pas avancer ça. C'est la seule chose qu'on sait, la différence, c'est qu'elle était recouverte d'un drap puis qu'elle était complètement nue, là, ce qui n'était pas le cas avec Denise Vouligny. Là. Et puis.
Ben, de toute façon, ils n'ont pas eu le temps de faire grand-chose à part assassiner Mme Vouligny, là, vu qu'ils se sont fait.
Ouais. Puis l'autre différence, c'est que c'est cette victime-là, la victime non identifiée, avait été étranglée alors que Denise, ben, elle avait été criblée de balles. Fait que, mais la question demeure tout le temps. Est-ce que ces deux affaires-là sont reliées? On ne le sait pas. On ne sait vraiment pas.
Non, aussi, il y avait en 1998 un article de Jacques Durand là, qui avait été publié dans Photopolis qui confirmait les soupçons qui avaient été soulevés là, par les faits relatés dans le quotidien de l'époque et aussi lors de l'enquête du coroner. Et en fait, là, Durand ailleurs. C'est un autre. OK.
Ouais, c'est un autre famille.
J'étais comme un peu mêlée. Donc, M. Durand a d'ailleurs précisé là, que. Peu de temps avant sa mort, Denise avait témoigné pour la couronne dans une cause qui se nommait pas. Dans une cause qui se nommait pas?
Qu'il ne nommait pas.
Ah, OK.
Qui, selon lui, avait fortement déplu aux Pégreux, donc aux membres de la Pègue, de la Rive-Sud. Donc, c'est ce que je disais, ben, je n'avais fait une allusion au début du podcast.
Ouais, ça, dans le fond, être un peu peut-être impliqué dans quelque chose des membres de la Pègue, puis ben besoin de la faire tant pour expliquer c'est ça. Pourquoi elle pourra, est là aujourd'hui.
On pourra pas être sûr à 100%, mais tant qu'à moi, c'est probablement
la piste la plus plausible.
Ouais, exactement. Fait que c'est probablement pour ça qu'ils l'ont passé, parce que on le sait que dans le crime organisé, les gens qui en savent trop ou qui sont sur le bord de parler sont moins fiables, ben, on n'aime pas ça. Fait que, on veut préserver l'organisation, si on veut. Donc, on élimine les sujets, les maillons les plus faibles, si on peut le dire comme ça. Alors, ben, ça termine, c'est tout ça. C'est une des affaires non élucidées qui, quand même, a beaucoup de rebondissements. Peut-être pas la plus, mais quand même pas mal. Tu sais, on a vu tantôt que ça, c'est probablement un meurtre par contrat, évidemment. On a eu le contrat à un moment donné de se débarrasser de Denise Voligny. Mais quand même, tu sais, si elle avait vu quelque chose qu'elle devait pas voir ou qu'elle savait quelque chose qu'elle devait pas savoir, ben, c'est triste quand même pour elle là, et pour sa famille. Là. On n'a jamais su vraiment l'opinion de sa famille dans ça. Et on peut le comprendre aussi, probablement qu'ils avaient peur de parler. Là, parce que quand le crime organisé est proche, mettons qu'on marche les fesses serrées. Mais c'est ça, c'est vraiment triste. Là. Moi, je prends ça des fois. À chaque cas que je le prends un peu personnel, je me dis... Ben, c'était une autre victime de ces plates-là. C'est comme pas comme si c'était une amie. Là. J'en ferai pas de maladie non plus, puis ça m'empêchera pas de dormir. Mais je sais pas, tu sais, elle méritait pas ça, c'est sûr.
Ben, c'est sûr qu'elle a été assassinée froidement. Là. C'est. Ben, je veux dire, il n'y a pas de bonne façon de tuer quelqu'un, mais on s'entend que c'était pas délicat non plus. Là.
Non, effectivement, là, ils ont pas. Ils ont fait ça. Alors, c'est ça, malgré ce qu'on peut en penser. C'est sûr qu'il y a quand même plusieurs pistes là, qui... Comment que je dirais ça? Il y a une circonstance quand même qui se dessine autour qu'on peut penser à peu près ce qui s'est produit. Mais officiellement, ça demeure non élucidé. Donc, il n'y a jamais personne qui a payé pour le crime de Denise.
Il est quand même dommage.
Ouais.
En plus, on reste un peu sur une note un peu amère. On n'est pas trop, on sait pas trop c'est qui. Là, on a plein d'idées de qui ça pourrait être, puis les raisons qui justifieraient ça. Mais là, après ça, retournement de situation, là, quelqu'un d'autre se présente. Finalement, tout le monde est acquitté. Fait que c'est un peu insatisfaisant. Je vais le dire comme ça. Là, j'arrivais là, puis j'étais sûre qu'elle a. Finalement, on allait coincer quelqu'un après avoir eu tellement de personnes impliquées. Et pourtant, ouais, on arrive au point mort, ce qui est un peu,
Un peu triste. Tu vas voir, il y a des cas encore pires que ça, dans le sens que des fois, il n'y a aucune piste. Des fois, on n'a quasiment rien à raconter tellement qu'il n'y a rien. C'est triste, là, mais c'est ça.
D'ailleurs, Paris. Petite question... Parenthèse, là, mais tout à l'heure, tu parlais du Casaloma. Est-ce que c'est un sujet qu'on va traiter? Là? D'ailleurs, je pose la question, mais moi-même, je ne sais pas si c'est une vraie question.
on pourrait, parce que moi, j'ai une bonne partie des notes chez moi de l'enquête du coroner concernant le Casaloma. peut-être même une partie du procès, je ne me rappelle plus, mais j'ai le témoignage de Joe DiMolo qui, lui, on ne l'a pas souligné tantôt, mais il y en a certains de nos auditeurs qui savent c'est qui. Il a fini par être assassiné, il a monté dans les échelons, lui, de la mafia. Et il est devenu, j'oserais pas, je ne suis pas spécialiste du crime organisé, mais il était, je pense, le numéro 2 de la mafia à Montréal, là, quand il a été assassiné chez lui, là, je pense que c'était pas à Boisbriand, là, mais dans la région de Montréal. Il revenait chez lui, là, puis ça, c'est sa femme qui l'a retrouvé le soir dans la cour, là, chez eux. Il avait été assassiné par un tueur à gages. Ça, je pense que c'était en 2015 ou 2016, dans ce coin-là.
Mais c'est quoi, les voisins n'auraient rien vu? Parce que s'il est dans sa cour, je présume...
Ça, faudrait y revenir, faire une balado là-dessus, là, pour peut-être demander l'enquête de coroner là-dessus, ça serait intéressant.
Oui, en tout cas, sinon, si les gens ont des cas qui sont peut-être pas super connus puis qui voudraient qu'on traite, on peut réussir. C'est sûr qu'on aime bien traiter des sujets qui sortent moins souvent. Là. Ça fait de quoi de nouveau à écouter. Là, mais on est toujours bien curieux là, de savoir ou d'entreprendre des petites investigations, excusez-moi, de notre côté. Alors, si vous voulez, je sais pas si toi, tu avais quelque chose à rajouter, mais sinon, j'irais peut-être plus pour la conclusion.
Oui, pas de problème.
Voilà. OK. Donc, c'est ça. Pour conclure, en fait, si vous possédez de l'information là, sur l'affaire ou que vous faisiez peut-être même partie de la famille de Mme Vouligny, là, vous pouvez toujours nous écrire à une enquête à la fois, là, tout écrit d'une traite. D'un morceau. Et par la suite, c'est acommercial@gmail.com. C'est sûr que nous, on garantit là, l'anonymat des personnes qui nous informeraient puis qui en font la demande. Alors, on vous remercie d'avance si vous voulez participer. Sinon, si vous êtes juste là pour nous écouter, il n'y a pas de problème aussi. On est ouvert à tout.
Exactement. Ben, merci beaucoup, là, Ellie. Puis on se retrouve pour la prochain podcast.
Exactement. Ben, bye Eric. Bye tout le monde.
Salut, bye.